La lecture d'abord d'un verset dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. À la moitié du verset 9, vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Encore dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, Les quatre premiers versets. Ayant traversé Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Et selon sa coutume, Paul entra vers eux, et pendant trois sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscita d'entre les morts, et disant que celui-ci, Jésus, que moi je vous annonce, est le Christ. » Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude de Grecs qui servaient Dieu et des femmes de premier rang en assez grand nombre. Nous avons évoqué tout à l'heure dans la lettre qui a été lue à propos d'une assemblée du Gabon, la fraîcheur du premier amour de cette assemblée. Et deux passages de l'Écriture évoquent cette fraîcheur du premier amour. Le premier passage, c'est Jérémie, chapitre 2, où il nous est parlé de l'amour des fiançailles et à propos du peuple d'Israël. Le deuxième passage de l'Écriture qui nous parle du premier amour, c'est le premier chapitre de la première épître aux Thessaloniciens. Et pourront peut-être examiner quelque chose de cette première épître où nous trouvons toutes les manifestations magnifiques de ce premier amour, du premier amour pour Christ. Nous savons tous que dans l'Apocalypse, au chapitre 2, il nous est parlé de cette lettre à Éphèse et le reproche que fait le Seigneur Jésus à cette assemblée d'Éphèse, c'est qu'elle avait abandonné le premier amour. Dans Actes chapitre 17, nous parle de la propagation de l'Évangile en Europe. Et il nous est parlé de trois assemblées, de Thessalonique, il nous est parlé de Bérée, et la troisième assemblée qui était en Europe, c'est Athènes. Et nous voyons que l'apôtre Paul, qui était accompagné, s'est rendu donc à Thessalonique, au premier verset de ce chapitre 17. Et selon son habitude, sa coutume, nous voyons que l'apôtre Paul se rendait à la synagogue et il était au fond fidèle à la parole de Dieu qui, comme cela nous est rapporté dans le premier chapitre des Romains, cette parole qui devait être annoncée aux Juifs premièrement et aux Grecs ensuite. Donc l'apôtre, quand il se déplaçait, en particulier, nous le voyons à Thessalonique, il se rendait à la synagogue et, selon sa coutume, et il s'adressait aux Juifs. Et à Thessalonique, il y est resté trois sabbats, c'est-à-dire à peu près trois semaines. C'est un séjour qui est relativement court. Mais après, dans les deux épîtres aux Thessaloniciens, nous voyons que ce séjour à Thessalonique, eh bien, avait été très fructueux pour l'œuvre du Seigneur. Et pouvons peut-être tirer de ces quatre premiers versets quelques enseignements de ce chapitre 17. Et nous voyons d'abord que la base des entretiens de Paul dans la synagogue avec ses Juifs, c'était la parole de Dieu. Il discourut avec eux d'après les Écritures. Il nous arrive de temps en temps, peut-être souvent, de rencontrer des personnes qui ne sont pas sauvées, des incrédules. Et nous essayons souvent de les convaincre de ce qu'est le christianisme. Et ça peut nous être arrivé de faire de beaux discours, mais souvent nous voyons que ces discours que nous avons à cœur de dire à ces personnes ne sont pas très, très productifs. Et à plusieurs occasions, je m'étais posé cette question, pourquoi justement ces âmes ne sont pas touchées. Eh bien, une explication, c'est sans doute que nous ne nous basons pas assez sur des versets de la parole de Dieu. Et nous voyons que Paul, pour convaincre des Juifs, eh bien, il discourait avec eux, il avait des entretiens, mais c'était des entretiens qui étaient basés sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'était sans doute l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament, et donc il se référait uniquement aux Écritures. C'est sans doute une leçon que nous pouvons tirer. Si nous avons à cœur l'Évangile, si nous avons à cœur de convaincre des âmes de leur situation de péché, eh bien, il faut que nous apprenions peut-être aussi à nous servir de l'Écriture, des Écritures. La parole de Dieu a cette puissance en elle-même pour convaincre quelqu'un. Ce ne sont pas des discours même présentés d'une manière heureuse, mais c'est la parole de Dieu qui convainc de péché une personne par le moyen du Saint-Esprit. Et s'il y a cette leçon que nous pouvons tirer, c'est prendre la parole de Dieu, prendre les Écritures pour convaincre ces personnes. Et alors, la deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce qui est dit dans ces quatre premiers versets de ce chapitre 17, la deuxième leçon, c'est la nécessité. Il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts. De quoi nous devons nous entretenir avec ces personnes que nous pouvons rencontrer? Eh bien, c'est uniquement du Seigneur, c'est Christ. C'est Christ qui est venu sur cette terre pour souffrir, pour mourir, comme nous l'avons exprimé tout à l'heure. Et c'est le besoin des âmes, c'est d'un sauveur, mais d'un sauveur qui a porté leurs péchés, nos péchés, sur le bois de la croix. Et c'était une nécessité. Il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts. Dans l'expression « le Christ souffrit », nous comprenons bien que cette souffrance l'a amené à la mort, puisqu'il nous est parlé immédiatement après cette nécessité qu'il ressuscita d'entre les morts. Voilà la base de l'Évangile. Voilà le sujet des entretiens de Paul avec les Juifs dans la synagogue. C'était prendre les Écritures et leur exposer qu'il fallait que le Christ souffrît et ressuscita d'entre les morts, s'appuyer sur les Écritures. Et l'Écriture est suffisante pour convaincre quelqu'un de péché. Et soutenir que que Christ, cette personne, est maintenant vivante dans le ciel. Si Christ est mort, s'il a souffert et qu'il est mort, eh bien, il est vivant, il est ressuscité dans le ciel, élevé dans le ciel et à la droite de Dieu. Voilà la substance de l'Évangile. Et alors, quand nous revenons à la première épître aux Thessaloniciens, nous voyons le résultat des entretiens de Paul à Thessalonique de Acte 17. Et nous voyons que les Thessaloniciens s'étaient détournés du monde et de ses illusions. Ils s'étaient détournés des idoles de ce monde. Pourquoi faire ? Eh bien, c'est pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Non seulement il s'était détourné de ce monde, de ses illusions et de ses idoles, mais maintenant ils attendaient le Fils de Dieu. C'est-à-dire que toutes leurs attentes étaient en Christ. Toutes leurs attentes étaient en Jésus-Christ. Et ils avaient reçu cette parole que Christ était ressuscité et qu'il était dans les cieux, que c'était une personne vivante dans les cieux. Ils ne s'attardaient pas à vouloir redresser le monde ou à l'améliorer, non. Une fois convertis, eh bien, ces vies des Thessaloniciens étaient maintenant consacrées au Dieu vivant et vrai. Ils désiraient le servir, desservir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils. Alors si nous regardons un petit peu au début de ce chapitre premier des Thessaloniciens, nous allons le lire au verset 2, « Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenant sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour, et de votre patience, d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père, sachant, frères bien-aimés de Dieu, votre élection. » Nous voyons donc dans ce chapitre premier les fruits de l'Évangile. L'Évangile avait été prêché à Thessalonique, eh bien, nous voyons des vies transformées. Nous voyons l'épreuve d'un véritable travail de Dieu dans des âmes. Et c'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, avait produit par la parole de Dieu qui avait été reçue un tel travail dans ses âmes que ces Thessaloniciens maintenant se consacraient leur vie à servir le Dieu vivant et vrai. Voilà les manifestations du premier amour. Ce désir exclusif de servir le Dieu vivant et vrai. Non seulement le servir, mais attendre le retour de son Fils des cieux. Où en sommes-nous de notre premier amour? Est-ce que nous avons ce désir exclusif de servir Dieu, le Dieu vivant et vrai? 1 Corinthiens 6 nous dit que nous avons été achetés à prix, que nous ne nous appartenons plus, que nous avons été rachetés. Et dans la fraîcheur de leur premier amour, les Thessaloniciens, ils désiraient servir le Dieu vivant et vrai. Où c'est que nous en sommes dans notre premier amour? Est-ce que nous avons cet amour exclusif pour Dieu? Est-ce que nous avons cet amour exclusif pour le Seigneur? Est-ce que nos vies lui sont consacrées à notre Seigneur? Est-ce que nous sommes encore engagés dans nos cœurs exclusivement à sa personne? Alors nous voyons dans la fraîcheur de ce premier amour les caractères d'une âme qui est vraiment convertie. Nous voyons les caractères d'une âme, justement ces caractères qui accompagnent le salut dans une âme. Et au verset 3, il nous est dit ce qui caractérisait ces Thessaloniciens, c'était leur œuvre de foi. C'est-à-dire qu'au fond, ils tiraient leur force et leur sagesse de celui qui était invisible. Leur œuvre de foi, c'est au fond, ils désiraient dans leurs œuvres suivre Dieu, servir Dieu. Mais cette force, eh bien, du service venait de celui qui est invisible. Ce n'était pas avec leur propre force ou avec les forces d'autres forces ou les forces de ce monde, non. C'était une œuvre de foi, c'est-à-dire que toutes ces œuvres et tout cet engagement à servir Dieu, eh bien, elle venait de cette foi qui tirait sa force de celui qui est invisible. Est-ce que, quand nous avons ce désir de servir le Seigneur, est-ce que nous tirons notre force de celui qui est invisible, qui est sans doute dans le ciel, qui est dans les cieux, qui est assis à la droite de Dieu, dans les hauts cieux? Eh bien, est-ce que nous tirons notre force, quand nous désirons le servir, de lui-même? Avec quelle force nous le servons? Eh bien, nous voyons que c'était une œuvre de foi. Et alors, il nous est dit du travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette expression « de notre Seigneur Jésus-Christ » se rapporte à l'œuvre de foi, se rapporte au travail d'amour et se rapporte à la patience d'espérance. C'est-à-dire, au fond, que ce service qu'ils désiraient accomplir et qu'ils accomplissaient pour le Seigneur, eh bien, elle venait de la force qu'il recevait en le contemplant dans le ciel. Une œuvre deux fois. La deuxième chose le deuxième caractère que l'apôtre met en valeur chez ces Thessaloniciens, c'était leur travail d'amour. C'est-à-dire le travail d'un chrétien doit être issu de l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Ce n'est pas un travail qui est exécuté comme une obligation légale, mais notre travail d'amour, le désir que nous avons dans la vie de tous les jours ou la vie journalière de servir notre Seigneur, eh bien, ce travail doit venir de l'amour que nous avons pour sa personne. C'est pas une obligation légale, c'est-à-dire que je vais servir le Seigneur dans mes actes, dans ce que je vais faire pour lui. Je ne vais pas le servir d'une manière légale en disant « il faut que je le fasse », pas du tout. Il faut que ce désir vienne d'un cœur aimant le Seigneur, un cœur qui est rempli d'affection pour son Sauveur. Le troisième caractère qui manifeste donc ce premier amour, nous le voyons, c'était cette patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. La patience ici, ce n'est pas la triste résignation à toutes les choses que nous pouvons rencontrer dans ce monde et toutes ces choses tristes. Et nous voyons que dans le premier amour, c'est pas cette résignation. Nous allons rencontrer bien sûr des oppositions, nous allons rencontrer des tribulations, mais le vrai amour, le vrai premier amour pour Christ, eh bien, c'est une patience qui est soutenue par l'espérance du retour de notre Seigneur. Ce n'est pas une triste résignation. Pensons à ces caractères qui devraient être encore les nôtres aujourd'hui, ces caractères du premier amour, une œuvre de foi, c'est-à-dire la foi qui tire toute sa force de celui qui est dans le ciel. Le travail d'amour, un travail qui est effectué parce que nous avons cet amour dans le cœur, des affections vives pour notre Seigneur, et cette patience dans ce travail, dans ce service pour le Seigneur, non pas cette résignation, mais cette patience qui est soutenue par l'espérance du retour du Seigneur Jésus pour venir chercher son Église. Et alors, nous voyons que ces beaux fruits, nous allons les appeler comme ça, ces vies transformées, ces beaux fruits que produisait l'Esprit de Dieu chez les Thessaloniciens, eh bien, l'apôtre Paul, quand il voit ces manifestations du premier amour, eh bien, nous le voyons au verset 2, eh bien, il rend grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Ces manifestations de l'amour que Paul avait produit par son ministère, eh bien, l'amène à rendre grâce à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui opère ce travail dans les âmes par le Saint-Esprit. Comme il nous est dit au verset 5, notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui produit non seulement la conversion, la nouvelle naissance, par le moyen des Écritures, mais ensuite c'est le Saint-Esprit qui produit ces heureux fruits dont nous venons de dire quelque chose. Et nous voyons que toutes ces manifestations devant toutes ces manifestations de ce premier amour, eh bien, l'apôtre Paul, eh bien, il rend grâce à Dieu pour ces choses qui sont produites dans les âmes par le moyen de son ministère. Alors, non seulement nous avons vu quelques caractères que Dieu produit par le Saint-Esprit dans les âmes, mais nous voyons vraiment des vies transformées. Et au verset 6, il nous est dit « Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole, accompagnés de grandes tribulations, avec la joie de l'Esprit-Saint. » Et la prédication de l'apôtre donc avait produit ses fruits par le Saint-Esprit, mais nous voyons que à travers cette expression, vous êtes devenus nos imitateurs, et bien que, au fond, la vie de Paul était en harmonie avec ce qu'il annonçait, avec sa prédication. Et il ose dire au fond qu'il était un exemple pour les Thessaloniciens et que ces Thessaloniciens étaient devenus les imitateurs des apôtres et de Paul en particulier. Vous êtes devenus nos imitateurs ayant reçu la parole. Mais si Paul se réjouit que les Thessaloniciens étaient ses imitateurs, c'est parce que lui-même, il vivait l'évangile qu'il annonçait. Il n'y avait pas un hiatus entre sa vie personnelle et ce qu'il annonçait et ce qu'il prêchait. Et au fond, la puissance de l'évangile se manifeste aussi en rapport avec les prédicateurs. Si ma vie est en rapport avec ce que j'annonce ou avec ce que je dis, eh bien, cette prédication aura beaucoup plus de portée que si ma vie n'est absolument pas en rapport avec ce que j'annonce. Comment est notre conduite ? Et nous voyons que, au fond, dans ces fruits du premier amour, eh bien, à travers ce que nous dit l'apôtre Paul, il faut que notre vie soit en harmonie avec ce que nous connaissons, ce que nous avons appris dans la parole de Dieu. Si nous disons que nous avons été achetés à prix, que nous ne nous appartenons plus, eh bien, dans la vie pratique, dans notre vie pratique, il faut que ce soit quelque chose de vrai, quelque chose de véritable. Mais si je dis que nous avons été achetés à prix, et puis que je mène ma vie à ma guise, comme je l'entends, je fais ma volonté comme je l'entends, bien il va y avoir un grand hiatus entre ce que j'annonce et ce que je vis. Et tout ce que je pourrais dire ou annoncer ou prêcher, eh bien, n'aura pas beaucoup de valeur parce qu'il n'y aura pas cette harmonie qui est nécessaire entre ma vie et ce que j'ai compris et ce que j'ai reçu par la parole de Dieu. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure, je crois, dans la prière aussi, d'être des témoins. Dans le verset 7, nous voyons que que ces croyants étaient devenus, de sorte que vous êtes devenus des modèles pour ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue. Le premier amour, les caractères du premier amour se manifestaient dans la vie des Thessaloniciens. Ils étaient devenus des imitateurs de l'apôtre. Ils étaient devenus des imitateurs du Seigneur. Sans doute beaucoup plus que de l'apôtre, mais ils étaient devenus des imitateurs du Seigneur. Et nous voyons que leur témoignage, eh bien, était tel qu'ils étaient devenus des modèles. Non seulement ils vivaient ce premier amour pour Christ, ils manifestaient les caractères de ce premier amour, mais ils étaient devenus des imitateurs du Seigneur. Et dans la mesure où ils étaient des imitateurs du Seigneur, nous voyons que leur témoignage avait retenti dans toute cette région de la Macédoine et de l'Achaïe. Et nous voyons que c'est ce qu'ils étaient, ce qu'ils vivaient qui était ce témoignage. Ce n'était pas tellement ce qu'ils disaient, mais dans leur vie de tous les jours, eh bien, ils étaient des imitateurs du Seigneur. Et dans la mesure où nous sommes des imitateurs du Seigneur, eh bien, nous aurons un vrai témoignage, un témoignage véritable dans ce monde. Et leur foi était donc un émerveillement pour Paul. Et le changement de leur manière de vivre, eh bien, avaient prouvé la réalité de leur conversion. Christ était devenu leur modèle. Juste quelques mots sur Christ, notre modèle. Le Seigneur, quant à ses paroles, il nous est dit que personne ne pouvait l'enlacer dans ses paroles. Qu'en est-il de nos paroles? Personne ne pouvait enlacer le Seigneur dans ses paroles. Ce qu'il disait, il était ce qu'il disait. Il disait toujours la vérité. Est-ce que nous sommes des imitateurs du Seigneur en parole? Est-ce que quelquefois, nos paroles vont au-delà de ce que nous disons, de ce que nous vivons. Le Seigneur, quant à ses œuvres, il nous est dit qu'il faisait toutes choses bien. Quant à nos œuvres, est-ce qu'on peut dire, est-ce que je peux dire, est-ce que nous pouvons dire chacun que toutes nos œuvres sont bien? Le Seigneur, il faisait toutes choses bien. Bien. Sa conduite, la conduite du Seigneur. Mais sa vie était gouvernée uniquement par Dieu. Ce que Dieu lui disait, il le faisait. Il était dépendant. Le Seigneur était cet homme dépendant, obéissant, soumis à la volonté de son Père. Est-ce que dans notre conduite, eh bien, est-ce que notre vie est gouvernée par Dieu? Qu'en est-il de notre amour? Est-ce que notre amour pour Dieu, est-ce que nous avons un amour pur, entier? Je crois que personne ne peut le dire, que nous avons chacun un amour pieux et entier et pur pour Dieu, pour le Seigneur, pour les autres. Le Seigneur avait aussi la foi. Il avait une confiance absolue en Dieu. À chaque pas de sa vie, nous voyons que le Seigneur s'appuyait sur son Dieu. Il avait cette confiance absolue envers son Dieu. Est-ce que nous sommes des imitateurs du Seigneur? Est-ce que nous avons cette confiance absolue, jour après jour, en Dieu? Est-ce que nous nous appuyons exclusivement sur notre Dieu? La vie de notre Seigneur a été une vie de pureté. Et nous pouvons dire que cette pureté, son éclat ne s'est jamais terni. Qu'en est-il de notre vie? Est-ce que nous avons une conduite et une vie de pureté? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que nous pouvons nous reprocher? Est-ce que notre conscience est assez sensible pour encore sensible pour manifester des choses qui peut-être nous devons régler avec Dieu et juger avec Dieu? Si Dieu nous a laissé un tel chapitre, ce premier chapitre de la première épître aux Thessaloniciens, donc nous avons dans ce chapitre la présentation magnifique du premier amour pour Dieu, du premier amour pour le Seigneur, des vies transformées, l'épreuve manifeste d'un vrai travail dans les âmes de Dieu. Est-ce que nous sommes toujours animés de ce premier amour pour Christ? Est-ce que nous sommes toujours animés ou avons de cet amour, ou bien avons-nous abandonné notre premier amour? Eh bien, que la lecture de ces passages de l'Écriture ravive cet amour pour notre Sauveur et Seigneur. Est-ce que de tels passages, si nous les recevons dans le cœur et dans notre conscience, nous ferons peut-être prendre conscience justement de cet écart qui existe entre ce que nous vivons aujourd'hui et les caractéristiques, les caractères d'un premier amour pour Dieu? Avons-nous toujours ce désir de nous détourner des idoles de ce monde pour servir avec un engagement du cœur le Dieu vivant et vrai et d'attendre son Fils qui vient des cieux et qui va venir bientôt chercher son Église?
Je voudrais juste rapidement relever cette expression du verset 6, la fin du verset 6. Ayant reçu la parole accompagnée de grandes tribulations et avec la joie de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas une expression courante, la joie de l'Esprit-Saint. Et qui est associée là de grandes tribulations avec la joie de l'Esprit-Saint. Ces tribulations sont développées plus et réévoquées dans le chapitre 2, mais en rapport avec cette joie, on pense souvent à l'épître aux Philippiens, d'abord, quand on pense à ce sujet-là. Et au fond, dans cette épître, on retrouve plusieurs expressions que je voudrais juste lire au chapitre 2, verset 18, je vais dire à partir du... On va partir dire à partir du verset 17. « Or, pour nous, frères, ayant été séparés de vous pour un temps de visage et non de cœur, nous avons d'autant plus, avec un fort grand désir, cherché à voir votre visage. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, moi, Paul, et une fois, et deux fois, et Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions, n'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus à sa venue? Car vous, vous êtes notre gloire et notre joie. Cette manière dont les Thessaloniciens avaient reçu la parole dans des épreuves, des tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint, avait réjoui, était un sujet de joie, de réjouissance, d'encouragement pour l'apôtre Paul lui-même. Plus loin au chapitre 3, verset 9, « Car comment pourrions-nous rendre à Dieu assez d'actions de grâce pour vous, par pour toute la joie avec laquelle nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu, priant nuit et jour très instamment pour que nous voyions votre visage et que nous supplions à ce qui manque à votre foi. » De nouveau, cette joie que Paul peut exprimer qui est la sienne, alors même qu'il parle à la fin de ce que j'ai lu, de suppléer à ce qui manque à votre foi. Le travail chez les Thessaloniciens est loin d'être achevé. Mais en même temps, la manière dont l'évangile a été reçu est un sujet de joie et d'encouragement pour Paul, et de joie pour les Thessaloniciens eux-mêmes. Ils se sont tournés des idoles vers le Dieu vivant et vrai. C'est un sujet de joie, une délivrance, une espérance. Et puis alors, je saute peut-être, et peut-être encore un autre passage, mais tout à fait à la fin de l'épître, dans cette série d'encouragements qu'il leur donne, verset 16 du dernier chapitre, « Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse, en toute chose rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. » Des choses qui vont ensemble, se réjouir, prier, rendre grâce, et puis alors après des encouragements pratiques. Je les relis juste sans m'y arrêter plus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Conservez sans reproche, oui, mais c'est le Seigneur lui-même qui le fera. Ce n'est pas en notre capacité de nous conserver nous-mêmes. Ce que nous avons à faire, ce que nous pouvons faire, c'est demeurer dans cette dépendance, laisser l'Esprit agir en nous, nous conduire dans la soumission, dans la confiance, nous rappelant ce que nous sommes, objet de grâce. Créature déchue à la base, sauvée par grâce. Nous rappelons toutes ces choses, et alors le Seigneur, par son esprit, peut opérer ces choses et nous garder, nous sanctifier entièrement, nous garder sans reproche jusqu'en sa venue. Le Seigneur nous encourage et qui nous garde dans, je reviens à cette expression, la joie de l'Esprit Saint, que ce soit quelque chose que nous goûtions chaque jour, la joie de l'Esprit Saint.